aujourd'hui à Washington.
Bonsoir à tous et bienvenue dans Le Monde aujourd'hui, édition des 17h30, temps universel de ce vendredi 26 juillet 2019. John Lyndon à la présentation. Tout d'abord, les titres de cette édition. La Tunisie rend hommage à Caïd Essebsi. 7 jours de deuil national ont été décrétés dans le pays. Des funérailles nationales sont également prévues samedi. La mobilisation est restée forte ce vendredi en Algérie où les manifestants contestent toute légitimité à un panel désigné par le pouvoir pour mener le dialogue. Le nouveau Premier ministre britannique l'avait qualifié d'inacceptable, mais le président de la Commission européenne réaffirme la position de son institution sur l'accord du Brexit. Kim Jong-un a personnellement organisé et dirigé l'essai d'un système d'armes ultra-moderne. Pyongyang parle d'un avertissement solennel à la Corée du Sud. Et puis, ne manquez pas l'économie et les sports, mais tout d'abord, le journal. Bonsoir à tous. En Tunisie, depuis l'annonce hier du décès de Caïd Essebsi, les hommages internationaux ont afflué pour saluer le rôle crucial du président dans la marche vers la démocratie dans le berceau du printemps arabe. Le président américain Donald Trump a salué son leadership phénoménal. L'Égypte, la Jordanie et la Mauritanie ont décrété 3 jours de deuil, tout comme la Libye et l'Algérie, pays voisins. Emmanuel Macron est attendu demain en Tunisie. La Tunisie, justement, où on s'apprête déjà à organiser des élections anticipées. Mais avant, il y a ces funérailles qui sont prévues demain. Bagassi Koura.
Ce vendredi, l'heure était aux hommages, désormais présidé par intérim par le chef du Parlement, Mohamed Ennasser, qui a prêté serment juste après le décès jeudi du chef de l'État. Le pays pionnier du printemps arabe a salué la mémoire de son premier président élu démocratiquement au suffrage universel en 2014. Des festivals ont été annulés, les journaux imprimés en noir et blanc, 7 jours de deuil national ont été décrétés. Adieu, Monsieur le Président, dans un éditorial Le Quotidien, Le Temps salue un chantre du patriotisme et écrit, je cite, « Notre peine est grande, notre chagrin est immense. La dépouille de Bedi Caïd Essebsi a été transférée de l'hôpital militaire de Tunis au palais présidentiel de Carthage, à une vingtaine de kilomètres plus loin. Quelques centaines de Tunisiens étaient présents à la sortie du convoi. Bedi Caïd Essebsi est mort à quelques mois de la fin de son mandat en décembre, mais la Constitution prévoit que l'intérim de Ennasser ne dure que 45 à 90 jours, soit jusqu'au 23 octobre.
En République démocratique du Congo, un accord a été trouvé ce vendredi entre le FCC et le CACH sur la formation d'un gouvernement. C'est ce qu'annonce sur Twitter Nehemie Milania, coordonnateur du Front commun pour le Congo, pro-Kabila. Attendu depuis l'investiture de Félix Tshisekedi le 24 janvier dernier et la nomination de Sylvestre Ilunkamba comme premier ministre le 20 mai, ce gouvernement pourrait intervenir la semaine prochaine. Selon Maître Jean Baudouin Mayo, l'un des négociateurs de la coalition du chef de l'État, ce sera un gouvernement de 65 membres, 42 proviendront du FCC et 23 des rangs de CACH. RDC toujours, au moins 7 personnes ont été tuées dans un accident impliquant un camion qui a foncé sur des vendeurs de rue à Goma, dans l'est du pays, selon le maire de Goma, qui souligne que 6 personnes sont mortes sur le champ et 10 autres sont blessées. Selon une vendeuse qui se trouvait sur les lieux, le chauffeur aurait perdu le contrôle de son véhicule. Les accidents de la circulation sont fréquents en RDC, où les infrastructures sont mal entretenues et où la très grande majorité des routes est en terre. Près de 60 membres de l'opposition auraient été torturés par les forces de sécurité au Cameroun. C'est ce que fait savoir Amnesty International ce vendredi. Pour l'ONG, Yaoundé doit diligenter une enquête indépendante sur les violents coups et les mauvais traitements auxquels 59 membres de l'opposition, dont 6 femmes, auraient été soumis durant leur interrogatoire au secrétariat d'État à la Défense. Amnesty International demande également la libération immédiate du dirigeant de l'opposition Maurice Kamto et de plus d'une centaine d'autres sympathisants détenus depuis 6 mois uniquement, selon Amnesty, pour avoir participé pacifiquement à des manifestations. Une foule compacte a défilé vendredi à Alger pour la 23e semaine consécutive sous les yeux d'un important dispositif policier. Les manifestants contestent toute légitimité au panel désigné la veille par le pouvoir pour mener un dialogue sur les modalités d'une présidentielle rejetée par la contestation. Abdourahmane Dia.
La mobilisation est restée forte ce vendredi, mais moins massive que lors des gigantesques cortèges des premiers mois de contestation déclenchés le 22 février. Dans les rues quadrillées par les forces de l'ordre, les manifestants scandent « Le peuple veut l'indépendance » ou « Il y en a marre des généraux » en référence à la place centrale occupée par l'armée depuis l'indépendance. Le chef d'état-major, le général Ahmed Gaïd Salah, est devenu le véritable homme fort du pays depuis la démission le 2 avril du président Abdelaziz Bouteflika. Désigné hier au sein du panel de médiation, Karim Younes, ancien président de l'Assemblée nationale populaire et ancien ministre de Bouteflika, est l'une des cibles des manifestants de ce vendredi. Karim Younes dit qu'il veut mener le dialogue avec le peuple alors qu'en 2001, il était président de l'Assemblée nationale quand les manifestations contre le pouvoir ont été réprimées dans le sang en Kabylie, s'insurge un manifestant. Selon un autre protestataire, seuls ceux qui seront issus du mouvement de contestation seront habilités à parler au nom du peuple.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Ici aux États-Unis, le gouvernement américain a annoncé jeudi la reprise des exécutions au niveau fédéral après 16 ans d'interruption, un écho aux appels répétés du président Donald Trump d'utiliser davantage la peine capitale. Donald Trump, qui brigue un second mandat en 2020, réclame régulièrement un usage renforcé de la peine capitale, notamment pour les tueurs de policiers, les islamistes ou pour lutter contre le trafic de drogue. Les prétendants à l'investiture démocrate pour 2020 se sont empressés de dénoncer la décision de l'administration Trump. Au lendemain de la prise de fonction de Boris Johnson au poste de Premier ministre du Royaume-Uni, le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, lui a réaffirmé que l'accord de Brexit était la seule issue. Hier, Boris Johnson l'avait qualifié d'inacceptable. Salwa Jafari.
C'est par le biais de la porte-parole de l'Union européenne, Natacha Berthaud, que Jean-Claude Juncker a réaffirmé sa position. Hier, le président Juncker s'est entretenu par téléphone avec le Premier ministre Boris Johnson. Le président Juncker a écouté ce que le Premier ministre Johnson avait à dire et a réitéré la position de l'UE, selon laquelle l'accord de retrait est le meilleur et le seul accord possible, conformément aux directives du Conseil européen.
Autre réaction au langage utilisé par Boris Johnson, celle du ministre irlandais des Affaires étrangères, Simon Coveney.
Je pense que les déclarations du Premier ministre britannique hier à la Chambre des communes sont très inutiles à ce processus. Je pense qu'il semble avoir pris la décision délibérée de placer la Grande-Bretagne sur une voie de collision avec l'Union européenne et avec l'Irlande en ce qui concerne les négociations sur le Brexit.
À Paris, même son de cloche, le secrétaire d'État chargé des Affaires européennes a indiqué dans une interview que la France ne souhaitait pas renégocier l'accord. La France souhaite passer l'étape de l'accord du Brexit pour négocier calmement la future relation entre l'Europe et le Royaume-Uni.
Les deux missiles à courte portée tirés jeudi par la Corée du Nord qui se sont abattus en mer du Japon sont un nouveau type d'arme tactique guidée. C'est ce qu'annonce ce vendredi l'agence de presse officielle nord-coréenne. Les précisions de Nathalie Barge.
Le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un a personnellement organisé et dirigé l'essai de ce système d'armes ultramoderne qui constitue un avertissement solennel aux militaires bellicistes sud-coréens, a indiqué l'agence officielle. Pyongyang a prévenu que la tenue prévue en août d'exercices militaires conjoints des forces américaines et sud-coréennes pourrait empêcher la reprise des négociations avec Washington. Les responsables sud-coréens ont un comportement très étrange de double jeu, mettant en service en coulisses des armes offensives ultramodernes, a déclaré M. Kim, ajoutant que Séoul ne devait pas faire l'erreur d'ignorer son avertissement. L'état-major interarmé sud-coréen a annoncé jeudi que deux missiles avaient été tirés depuis Wonsan en Corée du Nord. L'un a parcouru 430 kilomètres avant de s'abîmer en mer. L'autre, qui semblait être un nouveau type de missile, a parcouru 690 kilomètres.
Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VO Afrique et voafrique.com. À présent, l'actualité économique, et c'est avec Nanit Talani.
Diamant Ciment Congo, la cimenterie à capitaux indiens, se dit submergée par les tempêtes qui ont coulé l'économie de Brazzaville. Récession et chute des prix, concurrence chinoise ainsi que la guerre civile dans le département du Pool où est implantée l'usine. Elle produit 4 000 tonnes de ciment par mois, très loin de sa capacité totale de 700 000 tonnes par an. La production s'écoule à des prix 5 fois inférieurs au business plan initial. La tonne coûte 40 000 francs CFA alors qu'elle se vendait 200 000 francs CFA. Diamant Ciment espère que les fonds que le FMI va mettre à la disposition du Congo-Brazzaville permettront la reprise des travaux et de la consommation du ciment. La Tanzanie a collecté 310 milliards de shillings de recettes minières en 2018-2019 contre 301 milliards de shillings pour l'exercice 2017-2018. Son objectif est de collecter 470 milliards de shillings en 2019-2020. Les mineurs artisanaux produisent environ 20 tonnes d'or par an, mais 90% sont exportés illégalement. Le gouvernement tanzanien a mis en place 28 centres de négoce de minerais pour améliorer la collecte de revenus de ce secteur. Pour terminer, la compagnie pétrolière chinoise China National Offshore Oil Corporation souhaite prendre une participation dans un oléduc en développement destiné à l'exportation de pétrole brut ougandais. Ce pipeline de pétrole brut d'une valeur de 3,5 milliards de dollars traversera la Tanzanie voisine et se dirigera vers le port de Tonga dans l'océan Indien. L'Ouganda a découvert des réserves de pétrole brut il y a environ 13 ans, mais la production commerciale a été retardée en partie à cause d'un manque d'infrastructures telles qu'un pipeline d'exportation.
Et Bagassi Koura nous a rejoint pour parler des sports. Bonsoir Bagassi.
Bonsoir John, bonsoir à tous.
Des nouvelles de l'Afro-CAN en basketball pour commencer.
Oui, l'affiche de la finale de ce tournoi qui se déroule à Bamako est connue. Les deux demi-finales se sont disputées hier soir. On fait le point avec Siaka Traoré, notre correspondant à Bamako.
Tombeur du Mali, pays organisateur en quart de finale, le Maroc s'est vu à son tour éliminé par le Kenya en demi-finale. Score 66 à 96. Quant au deuxième finaliste, notamment la RD Congo, elle a battu l'Angola sur le score de 84 à 78. Cette première édition de l'Afro-CAN senior masculin de basketball qui a enregistré 12 pays a été celle des surprises, car les deux pays finalistes n'étaient pas attendus à ce niveau de la compétition. Comme pour dire que la balle au panier n'est plus l'apanage d'un seul pays. Donné favori généralement lors des compétitions de basketball, des pays comme par exemple l'Égypte, le Nigeria, l'Angola ou encore le Mali ont été surpris cette fois-ci. Le Mali se contentera seulement d'un de ses deux objectifs qu'il s'était assigné à l'entame de la compétition, notamment la réussite de l'organisation. Celui de remporter le trophée étant perdu, qui du Kenya ou de la RD Congo va soulever le premier trophée de la première édition de cette Afro-CAN. Attendons donc demain samedi 27 juillet 2019 à 18h temps universel. Siaka Traoré Bamako pour VOA Afrique.
Oui, cette compétition de basketball est moins connue sur le continent. Thierry Kambundi de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa, nous explique ce que c'est.
Il s'agit de la première édition de la FOCAN, l'équivalent du CHAN, championnat d'Afrique des Nations en football, qui depuis 10 ans met en lumière les joueurs évoluant dans leurs championnats nationaux respectifs. La seule différence en basketball est qu'en phase finale, sur les 12 joueurs qualifiés par sélection nationale, 8 doivent provenir du championnat local, 2 de l'Afrique et les 2 derniers d'un autre championnat en dehors du continent. Kinshasa, Thierry Kambundi de Top Congo FM pour VOA Afrique.
Et puis cyclisme Tour de France, victoire du Colombien Egan Bernal.
Le coureur de l'équipe Ineos devient ainsi le nouveau maillot jaune du Tour de France suite à la 19e étape arrêtée avant terme. Ce vendredi, à l'approche de Val d'Isère, cette étape sans ligne d'arrivée a également été déclarée sans vainqueur. En revanche, les temps pris au sommet de l'Isère ont été reportés pour le classement général. Donc, Bernal, par conséquent, dépossède le Français Julian Alaphilippe de son maillot de leader à la veille de la dernière étape de montagne, à 2 jours de l'arrivée.
Merci Bagassi.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. John Lyndon en votre compagnie. À présent, les dossiers du jour et on commence par le Congo. Le Congo-Brazzaville qui est submergé par les tempêtes, entre autres la guerre, la récession, la chute des prix et la concurrence chinoise qui ont coulé son économie. Alphonse Ndongo, journaliste économique, nous parle ici des efforts du gouvernement congolais pour une sortie des crises. Il évoque également les causes profondes de cette récession congolaise. On l'écoute au micro d'Irénée Herman Umbo.
La situation de crise économique et financière qui vit le Congo aujourd'hui est tout simplement la résultante de l'environnement même économique international marqué par la baisse des produits, n'est-ce pas, de certains produits, notamment pour ce qui est du Congo. Il s'agit, n'est-ce pas, de la crise qui a secoué la plupart des États producteurs de pétrole depuis 2014. En ce qui concerne le Congo-Brazzaville, je tiens à préciser que le pétrole contribue à hauteur de près de 90% aux recettes budgétaires de l'État. Et donc, dans ces conditions, le Congo s'est retrouvé dans une situation financière assez délicate parce qu'on n'a pas su diversifier l'économie. On a beaucoup plus compté sur le pétrole et tout le temps, on a misé sur le pétrole, malheureusement.
Le Fonds monétaire international vient d'octroyer 448 millions de dollars de fiscalité de crédit sur 3 ans au Congo. Le pays pourra-t-il, avec cet argent, se donner un nouvel élan économique?
Le financement accordé par le FMI me paraît tout à fait. C'est une goutte d'eau dans le désert au regard de l'importance des moyens financiers dont a besoin le Congo, décliné à travers son programme national de développement. Il parle tantôt de 1 500, voire 3 000 milliards de francs CFA qu'il faut au Congo pour essayer de venir, de pouvoir supporter certaines charges incompressibles, payer ses fournisseurs et relancer son développement. Donc tout au moins, l'accord que le Congo vient de signer avec le FMI va lui permettre d'assainir les finances publiques, d'optimiser les recettes hors pétrole et éventuellement donc de rétablir les équilibres macroéconomiques qui ont été rompus pour que le Congo soit à nouveau un pays certainement attractif et essaye de s'orienter, de relancer son économie à travers un programme de diversification économique comme cela se passe dans certains pays, notamment le Nigeria et le Cameroun.
Au regard de la réalité sur le terrain, quelles sont les urgences aujourd'hui à votre avis?
Les urgences que sont le paiement des pensions des fonctionnaires, le paiement de la dette intérieure, c'est-à-dire ce que l'État congolais doit aux fournisseurs, la dette commerciale, mais aussi la dette sociale, des entreprises qui ont fermé ici et là et dont les gens n'ont pas été payés depuis un certain temps. Donc je pense que ça constitue des urgences qui vont faire que la fonction de consommation puisse à nouveau croître pour que le Congo soit quand même crédible sur le marché financier international.
C'était donc le journaliste congolais qu'on avait à Brazzaville, dont le journaliste congolais Alphonse Ndongo.
Bonsoir, Abdourahman Dia avec vous ce soir dans l'Amérique et vous. Ce sera à 19h temps universel. Cette semaine, l'ancien procureur spécial américain Robert Mueller était devant le Congrès. Il a réaffirmé que les Russes avaient tenté d'influencer les élections de 2016. Il a déclaré que les activités russes visant à porter atteinte à l'intégrité du système électoral américain se poursuivent encore. Et récemment, Facebook a banni une compagnie israélienne accusée d'avoir tenté d'influencer le débat électoral dans plusieurs pays africains. Laissez vos numéros et commentaires sur notre page Facebook ou appelez en direct au 001 202 205 26 33.
Au Gabon, fin de l'anarchie dans les transports urbains à Libreville. Le gouvernement a fixé les conditions de l'exercice de la profession de taximan à Libreville. Cette décision est assortie d'un communiqué du ministère des Transports enjoignant les acteurs du secteur de se conformer à ces nouvelles conditions dans un délai de 3 mois. Reportage d'Ismaël Obianze à Libreville.
Selon le nouveau texte du gouvernement gabonais, tout taximane exerçant dans le périmètre de Libreville doit être titulaire d'un permis B et D en cours de validité. Il doit aussi avoir réussi les tests d'aptitude qui lui donnent droit à une carte professionnelle. Le gouvernement dit aussi qu'il faut être âgé de 21 ans au moins et de 60 ans au plus, un ensemble de mesures saluées par certains taximans.
Le métier de taxi, c'est un métier noble, hein, mais d'aucuns pensent que c'est juste de l'amusement ou bien parce qu'on n'a plus rien à faire, on a tout perdu. Donc du coup, lorsqu'on exerce un travail comme un métier de taxi, d'être taximan, c'est bien, avoir une carte professionnelle, c'est une bonne idée. À 60 ans, l'homme a déjà des faiblesses, l'homme n'a plus les mêmes réflexes.
Si nous n'avons rien d'autre à faire et que c'est le métier de taxi que tu as choisi, ça devient ta fonction. Et tu as le droit à une carte professionnelle, le droit à l'unité de transport. À ce moment-là, il faut que tu sois reconnu par l'unité de transport. Au lieu d'être un taximan, on peut dire ambulant.
D'autres conducteurs de taxi y voient une contrainte supplémentaire en dehors des tracasseries quotidiennes sur les routes de Libreville.
Tu as ton permis, on te demande encore une fois le médical. Tu as le médical, tu vis de manière, il faut toujours manger. Pourquoi nous sommes obligés de le quand tu tiens le voyage, tu donnes 1000 francs, tu passes. Pourquoi les gens conduisent même dans Libreville, non seulement au Gabon, à Libreville, ils conduisent comme ça sans permis.
Est-ce que vous avez déjà la carte professionnelle que le ministère des Transports demande?
Vous savez, non. J'ai seulement le macaron de taxi.
Il y a des personnes âgées aussi qui sont dans les locations. Bon, il y a la difficulté. Ils n'ont pas les soutenances ailleurs. Vraiment, ça
ne
va pas être passé pour
elle. Aloïse Eyon-Jaffet, chef de service de la circulation routière au ministère des Transports, explique le bien fondé de ces mesures.
Pour nous, ce ne sont pas des professionnels. Il ne s'agit pas de se lever un matin, de prendre un véhicule et de dire qu'on est taximan. Il faut une formation appropriée. Formation qui atteste que la personne connaît le plan de circulation d'une ville, connaît la réglementation et la circulation routière, permet de savoir que cette personne a véritablement obtenu un permis de conduire. Beaucoup ont du mal même parfois à orienter leurs clients. Donc la carte professionnelle est bien indiquée pour attester du côté professionnel de ces gens qui conduisent et qui nous conduisent tous les jours.
Libreville, Ismaël Obionzé pour VOA Afrique.
Participez à notre magazine interactif à votre avis du lundi au vendredi à partir de 18h TU sur VOA Afrique. Donnez votre opinion sur tous les sujets sans tabou, politique, société, culture et bien plus encore. Vous pouvez même suggérer des thèmes sur notre page Facebook. À votre avis, l'occasion de vous exprimer librement du lundi au vendredi à partir de 18h TU sur VOA Afrique et voaafrique.com. À votre avis, c'est votre rendez-vous interactif au quotidien sur VOA Afrique.
Rendons-nous à présent à Tanger, ville du nord du Maroc, ouverte sur l'océan et la Méditerranée, mais aussi sur l'Europe. Ici, les subsahariens sont nombreux à tenter leur chance pour rejoindre l'Espagne par la voie terrestre ou maritime. Mais depuis plusieurs mois, les opérations d'arrestation se multiplient. Les subsahariens se retrouvent donc à vivre cachés dans les forêts. Résultat, beaucoup des migrants traqués sont obligés de trouver refuge dans des églises où les policiers n'osent pas entrer. Hélène Locker a suivi le collectif Voix des migrants qui distribue chaque vendredi une centaine de repas aux gens de la rue. Reportage.
À peine arrivé sur le parvis de l'église espagnole de Tanger, un Marocain nous interpelle et nous fait part de sa colère, des insultes que doit encaisser au quotidien Zakaria venu du Cameroun.
Chaque jour, c'est la même routine. Ça m'a touché profondément parce que c'est comme si nous ne sommes pas des êtres humains, quoi.
Pour Honoré, membre du collectif Voix des migrants, le subsaharien est particulièrement rejeté dans le nord du Maroc.
Il y a uniquement du racisme. Parfois, tu peux louer une maison, c'est ton propre bailleur qui va appeler la police. Ouais, tous avaient des maisons. Ils étaient logés à Branes, à Misnena, à Chaka, avec la complicité des forces auxiliaires, des bailleurs et des chefs de quartier. C'est le bailleur qui appelle le chef de quartier, qui a des subsahariens qui vivent là. Et le chef de quartier appelle les forces auxiliaires. Ils te mettent dehors et ils dépouillent, tout est bien.
Une centaine de migrants se retrouvent à dormir à même le sol, sur le parvis de l'église. Parmi eux, Jordi, arrivé il y a 5 ans à Tanger. Mais le Maroc n'est pas sa destination finale. L'homme a tenté une dizaine de fois de se rendre en Espagne, en vain. Jordi, au corps marqué par les cicatrices, dit avoir fait face à des violences policières.
Vers l'Espagne, vers la barrière de Ceuta,
Nous sommes arrivés là-bas, on est arrivé là-bas plusieurs pour entrer. Les forces d'auxiliaires ne nous arrêtent pas de la manière autoritaire, ils nous arrêtent de la manière raciste violemment. J'ai perdu les veines sur moi, j'ai perdu trois de mes veines. Du côté gauche, du côté droit, j'ai perdu une veine. Et sur mon front ici, j'ai perdu le tendon au niveau de mon front. Donc j'ai perdu beaucoup de choses.
À ses côtés se tient Abdourakhman, qui accuse même les forces de l'ordre de se servir de l'immigration pour se faire de l'argent.
Ils profitent du fait que l'Union européenne les a demandé de nous arrêter pour créer un business derrière ça. Parce que déjà, ils nous prennent les téléphones, ils nous prennent de l'argent, tu vois, et c'est pas bon. On souffre.
Des souffrances dont les migrants ont besoin de parler. Ronan, bénévole au sein du collectif Voix des migrants, est là pour ça. Pour lui, la distribution de sandwichs, c'est l'occasion aussi d'apporter du réconfort aux subsahariens.
Il faut continuer dans cette voie-là, essayer d'apporter un soutien qui soit juridique, qui soit même alimentaire, etc. Et faut pas être, je pense qu'il faut pas être pessimiste, même si les autorités, encore une fois, font des arrestations qui sont totalement arbitraires parfois illégales, et n'hésitent pas à refouler les personnes dans le sud à des milliers de kilomètres d'ici, et ce qui fait que c'est très difficile ensuite pour elles de revenir. Donc voilà, il faut pas perdre espoir et continuer à agir.
L'espoir et la foi en l'homme, c'est tout ce qui reste à ces migrants en attendant un jour peut-être de gagner l'Europe ou l'Amérique.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com. À tout de suite.
Les musulmans vivant en RDC seront privés des visas d'entrée en Arabie Saoudite pour participer au pèlerinage à la Mecque en raison de l'épidémie d'Ebola. Dans une lettre à la communauté islamique, le ministre des Affaires religieuses explique qu'il ne peut prendre de risque de contamination de plusieurs millions de personnes. La communauté musulmane représente 10% de l'ensemble de la population congolaise estimée à 80 millions d'habitants. Nathalie Barge a joint à Kinshasa Djuma Touwa, secrétaire général de la COMICO, la communauté islamique en RDC.
La réaction de la COMICO, elle est d'abord divine. Vous savez, en islam, tout ce qui vous arrive, il faut d'abord glorifier Allah, parce que c'est lui qui connaît les motivations de ça. Et de deux, le ministère du pèlerinage de l'Arabie Saoudite s'est référé à un hadith du saint prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, disant que quand il y a une maladie contagieuse qui est détectée dans une cité, les gens de cette cité ne peuvent pas quitter la cité pour se rendre dans une autre cité. Et nous l'acceptons en tant que tel, c'est notre foi.
Est-ce que vous êtes associé notamment aux autorités congolaises dans ces efforts pour contrer donc l'épidémie d'Ebola?
Notre imam, le jour de l'Aïd al-Fitri, le 4 juin au stade des martyrs, l'imam avait déjà appelé les autorités nationales pour se pencher sur les cas d'Ebola. Il les avait déjà appelés, mais même moi-même aujourd'hui, j'ai appelé encore les autorités nationales pour que tout le monde se penche. Vous savez que c'est une maladie qui n'est pas facile à traiter, et les autorités saoudiennes, parce que la Mecque qui réunit plus de 3 millions de pèlerins chaque année, ne pouvait pas s'hasarder de prendre un tel risque. Nous demandons au gouvernement de la République démocratique du Congo de tout mettre en œuvre pour que cette maladie soit éradiquée. Et les dons qu'on a d'ici et là, de par nos partenaires, que ces dons soient utilisés vraiment pour cette fin-là. La COMICO interpelle les autorités pour qu'elles soient aussi associées dans cette élite, parce que nous avons des prêches à faire par rapport à ceux qui sont résistants. Nous allons les montrer la raison de coopérer pour qu'on en finisse avec cette maladie.
Justement, en ce qui concerne notamment les décès, certaines traditions empêchent les corps d'être enterrés immédiatement, et il y a eu beaucoup de contestations à ce sujet-là par rapport à cette maladie. En islam, ce n'est pas du tout le cas. Qu'est-ce que vous auriez à dire justement sur cette question de la gestion des corps après un décès?
C'est l'une des raisons que nous appelons les autorités nationales à nous associer. Donc, en pareille circonstance, vous savez d'abord l'islam, de par sa coutume, quelqu'un qui meurt, on doit l'enterrer aujourd'hui.
Djuma Touawa, secrétaire général de la Comico. C'est la fin de ce journal. Merci d'avoir suivi. On vous revient dans moins de 30 minutes. Bonsoir.
VOA Afrique, les infos.